Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans l'antre du ridicule morbide. Bienvenue chez Murder Wine and Cheese. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser au cas de celui qu'on a appelé le tueur des trains, Sid Ahmed Rezala. Alors, petite info hein, pour le reste de l'épisode, je ne vais pas l'appeler Ahmed et je ne vais pas l'appeler Rezala, je vais l'appeler Sid, parce que j'ai aucun respect pour lui, donc je vais l'appeler comme le prénom du personnage Teubé de l'âge de glace, et vous allez rien faire. Sur ce, bon épisode! Sid est né le 13 mai 1979 à El Bihar en Algérie. Il est né d'un père qui est mécanicien itinérant et d'une mère qui est un peu un PNJ, hein, un personnage non joueur, puisque la seule description qu'on a d'elle, pardon, c'est qu'elle est morne. Donc voilà, elle est en arrière-plan, elle est là, mais elle est en arrière-plan. Au final, c'est un peu la tante de Sid qui reprend en quelque sorte le flambeau maternel, et Sid a une relation fusionnelle avec elle. Concernant le reste de la famille, il a deux frères et une sœur, et il vit dans la même ville que ses cousins, cousines, oncles, tantes, etc. Donc voilà, c'est une grosse famille, quoi. Donc au départ, Sid, c'est un garçon discret qui se fait un peu harceler à l'école, hein, c'est le timide de service. Mais il y a quelque chose qui va changer tout ça, parce qu'à 9 ans, malheureusement, il subit un viol collectif de la part d'adultes de la ville, et cet événement reste, et a été dès le début d'ailleurs, tabou dans la famille. On n'en parlait pas, on faisait comme si c'était jamais arrivé, et évidemment, Sid n'a eu aucune aide, que ce soit psychologique ou judiciaire. Après ça, naturellement, Sid, il est traumatisé, et donc il devient un enfant turbulent qui finit par ne plus aller à l'école. Et donc à peine 9-10 ans, il est déscolarisé. En 1994, la famille décide de fuir la guerre civile qui fait rage en Algérie et s'installe à Marseille. Donc ils essaient de commencer une nouvelle vie, Sid il est inscrit au collège, mais il n'y va pas et il commence à fuguer. Donc malheureusement, le déménagement n'a pas réparé les plaies aussi bien physiques que mentales de Sid. Et en 1995, il quitte définitivement les bancs de l'école et il plonge dans la drogue, la délinquance et surtout la violence. Donc, une fois que Sid est complètement déscolarisé, il se trouve un petit boulot, il commence à aider sa famille et il se trouve aussi une belle compagne avec qui il a de beaux enfants. Et voilà, il meurt de vieillesse dans son sommeil. Non, je déconne. Non. Sid, une fois qu'il est déscolarisé, il devient l'archétype vraiment du gars qui, quand on lui demande ce qu'il fait dans la vie, il répond « On est là, on est dans le quartier. » Tout ça pour dire qu'ils sont pas au chômage, quoi. Donc Sid, il commence à traîner à la gare Saint-Charles, comme la plupart des clochards de son quartier. Et il plonge, comme je vous l'ai dit, dans la drogue et la délinquance, hein, il commence à voler, il commence à être violent avec les autres. Et en février 1995, il viole un garçon d'une quinzaine d'années dans le parking de la gare Saint-Charles. Pour ça, il est condamné à 4 ans de prison, dont 18 mois ferme et 30 mois de mise à l'épreuve. Et retenez bien ce que je vais dire, parce que ça va vous consterner, au fur et à mesure de l'épisode. Son ADN est prélevé au moment de sa condamnation. Voilà, c'est une chose que vous devez retenir. Bref, une fois sous les verrous, Sid fait beaucoup de crises d'épilepsie, mais ça ne l'empêche pas d'être violent avec le personnel et ses co-détenus. D'ailleurs, il y en aura plusieurs qui l'accuseront de viol. Mais ces accusations, malheureusement, ne mèneront à rien. Et Sid sortira en 1996, libre comme l'air. Donc, une fois qu'il est sorti de prison, il commence un CAP pâtissier qu'il abandonne rapidement. Hein, il aime vraiment pas les études. Et en 1997, il est condamné pour avoir volé une montre. Franchement, il est très mauvais au vol, hein, parce qu'il se fait beaucoup beaucoup chopé. Et je sais pas, moi, à sa place, je serais passée à autre chose. Je sais pas, moi, j'aurais fait Uber Eats ou un truc dans le genre. Même si ça n'existait pas à l'époque. Bref. Bref. Malgré tout ça, il se trouve une compagne, Nadia, avec qui les choses se passent bien pendant les temps où il est pas incarcéré. Cependant, ces temps-là sont courts et très très loin entre eux. Et en mai 1998, s'y déplacer en détention pardon, provisoire pour avoir poignardé un agent SNCF. Bon, je vais pas dire qu'il a fait ça au nom du peuple, mais dites-moi, un jour, vous avez pas eu envie de faire du mal à la SNCF ou la RATP. Pas poignarder quelqu'un, hein, mais une petite droite. Une petite droite. Bref, c'est un enculé quand même, hein. Sid, c'est un enculé quand même. Mais. Voilà, je suis en train de me mettre dans la sauce. Oubliez ce que je viens de dire. Donc, en mai 98, il est placé en détention provisoire et encore une fois, plusieurs de ses co-détenus se plaignent de ses abus sexuels. À ce moment-là, Nadia, qui est enceinte de sa fille, le quitte et en février 1999, il est condamné à un an ferme. Il ne fera pas entièrement ses 1 an de prison, puisqu'en juin de 1999, il sort et il part à Amiens rejoindre Nadia et sa fille. Il essaie alors de devenir un bon père de famille, mais il rate encore, il rate. Et il rate aussi une formation dans l'hôtellerie, et il rate aussi les tests de la Légion étrangère. Apparemment, tout dans sa vie est un échec, sommes-nous étonnés, pas du tout. Et donc, déçu par ses tentatives infructueuses, il reprend sa vie d'errance et de délinquance. Il se met à prendre des trains qui vont partout et il se balade dans tout le pays sans ticket, au point d'être verbalisé, pardon, 42 fois par les contrôleurs. Mais ces verbalisations seront le cadet de nos soucis d'ici quelques mois. Le 13 octobre 1999, Sid est à la gare de Limoges en train de rien faire lorsqu'il rencontre Isabelle Pic, une jeune Britannique de 20 ans qui étudie en France et qui est à la gare pour prendre le train pour aller en Angleterre rejoindre son petit ami qui lui manque beaucoup. Donc Isabelle emprunte le téléphone de Sid et c'est comme ça qu'ils engagent leur conversation et apparemment Sid est super sympa. Puisque selon les témoins, quand elle monte dans le train, elle est avec lui et ils s'assoient ensemble dans un compartiment. Malheureusement, le masque tombe assez rapidement concernant Sid et il tente de violer Isabelle et finit par la jeter par la fenêtre du train en marche et avant de jeter ses affaires de la même manière. Alors, son corps, enfin le corps d'Isabelle est complètement désarticulé quand il est retrouvé à la gare de Chabenais, près de Châteauroux, et il faudra 5 jours pour l'identifier. Donc, au niveau de la scène de crime, retenez que Sid, qui a eu son ADN, qui a été prélevé lors de sa première condamnation, il laisse des empreintes, il laisse de la salive, etc., mais personne teste, personne calcule. À la place, les enquêteurs lancent un appel à témoins et mettent en place un numéro vert, vu qu'apparemment c'est le symbole de notre pays, hein, les numéros verts. Et ils organisent aussi une reconstitution grandeur nature pour laquelle ils réquisitionnent un train. Tout ça pour dire à la fin, ouais, il l'a jetée du train. No shit, elle a été retrouvée sur les rails. Bref, le 13 novembre 1999, donc un mois après, Sid est arrêté dans un train Genève-Paris avec 20 grammes de cannabis, un poignard et une bombe lacrymogène. Donc direct, il est passé en garde à vue. Mais il est libéré quelques heures plus tard sur instruction du parquet. Bah oui, ils sont pas au courant que c'est lui qui a tué Isabelle, donc ils en ont rien à foutre, en fait. Du coup, Sid se tient tranquille pendant un mois, puis dans la nuit du 14 décembre 1999, il tue Corinne Caillot, une mère de famille de 36 ans qui était en train de voyager vers le sud pour aller voir sa mère malade. Donc il trouve Corinne et la poignarde dans les toilettes du train qui allait de Calais à Vintimille. Et le plus triste, c'est qu'au moment du meurtre, le fils de Corinne, qui avait 4 ans, était en train de dormir dans leur compartiment couchette. Et donc pour une indignation de plus, parce que pourquoi pas, la casquette de Sid est retrouvée pleine de sang près du lieu du crime. Sid, il est déjà descendu, hein. Et bah pas d'analyse, rien. Alors qu'il a laissé des cheveux dedans, tout ça, bref. Vous connaissez la chanson. Donc, au lieu de faire des analyses, les enquêteurs envoient son signalement à tous les commissariats de France, et c'est comme ça qu'ils découvrent qu'il est aussi recherché du côté de Châteauroux, évidemment pour le meurtre d'Isabelle Pic. Donc, 3 jours après tout ça, le 17 décembre 1999, on retrouve à Amiens le corps d'Émilie Bazin, qui était une étudiante et aussi une amie de Sid. Donc, elle est retrouvée dans la cave de l'immeuble où il a habité, et il a laissé plusieurs indices, un mégot de cigarette, du sperme dans le corps d'Émilie et des taches de sang dans son appartement. Donc, enfin, on a des analyses qui sont faites pour confirmer que c'est bien lui le tueur. Sauf que l'enquête va complètement capoter de ce côté parce qu'au moment où le corps d'Émilie est retrouvé, Sid a déjà quitté le pays. Oui, bonjour, c'est Elsa qui édite l'épisode. Donc c'était juste pour vous dire qu'au niveau de la scène de crime de Corinne Caillot, il y a eu des analyses et on a bien retrouvé des cheveux de Sid et ils ont bien été associés à Sid. Donc c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert que c'était Sid qui le recherchait. J'ai dit beaucoup Sid, c'est trop. Mais bon, voilà, c'était juste pour dire, bon, sur ce coup-là, ils ont un peu moins merdé, quoi. Oui. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est trop tard quand le corps d'Émilie Bazin est découvert à Amiens, parce que 2 jours plus tôt, le 15 décembre 1999, et malgré les efforts de la police, une photo de Sid est publiée dans le journal. Donc, naturellement, il le voit. Et il quitte tout simplement le pays et devient ainsi recherché par Interpol. Le 24 décembre, oui, au réveillon de Noël, sa famille est placée en garde à vue et le 28, cette dernière appelle à sa reddition. Comment vous dire que Sid en avait un peu rien à battre. D'ailleurs, durant la semaine de Noël, il était en Espagne et il s'est fait arrêter pour vol à l'étalage. Mais malgré l'intérêt que Interpol lui porte, hein, la petite affection, disons, il est relâché, pardon, au bout de 3 jours sur ordre d'un juge, comme quoi dans cette affaire, vraiment l'échec policier est international, quoi. Bref, le 27 décembre 1999, il arrive au Portugal, à Lisbonne, et se fait passer pour un simple sans-papier algérien. Il est recueilli par un certain Fernando, avec qui il a une courte liaison, et il est repéré lorsqu'il passe un coup de fil vers la France pour prendre des nouvelles de sa fille. Il est ainsi arrêté le 11 janvier 2000, parce que les policiers français, ils n'ont pas perdu de temps, ils se sont dit on a assez merdé, on va aller sur place, on va prévenir aussi la police portugaise pour qu'eux aussi soient sur place, et vraiment ils ont mis les moyens pour éviter qu'il leur échappe encore, et ils ont eu de la chance parce que à quelques heures près ils le chopaient pas du tout parce qu'il s'apprêtait à s'envoler, pardon, vers les îles Canaries. Du coup, naturellement, il est placé en détention, mais il nie complètement les faits. Il est quand même placé en détention préventive, encore heureux, et c'est là qu'un journaliste du Figaro lui rend visite. Et là, il avoue tout, tout simplement. Il était muet comme une carpe devant les enquêteurs, mais on ne sait pas pourquoi. Il y a un journaliste qui est arrivé, il a dit hey, tu veux me raconter ta vie? Il a dit ok. Et donc, il a eu une grande interview qui a été publiée dans le Figaro. Donc, durant sa détention provisoire, il y a des petits couacs administratifs parce que le Portugal a une politique d'extradition vers la France et vers les autres pays qui pratiquent des peines de plus de 30 ans qui est assez spéciale. Mais en mars 2000, la Cour d'appel de Lisbonne autorise son extradition. Sid décide alors de porter son cas devant la Cour constitutionnelle portugaise, c'était compliqué à dire, mais cette cour l'envoie aussi se faire foutre. Donc il est un peu désespéré, il écrit à sa famille: j'ai tout perdu dans la vie, il ne me reste qu'à la rendre au Créateur. Et le 28 juin, forcément.
Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 29 juin. Sid Ahmed Rezalla ne sera pas jugé. Celui que l'on a surnommé le tueur des trains a choisi la mort pour échapper à la justice des hommes. Il a mis le feu à sa cellule dans la prison centrale de Lisbonne et est mort.
Eh oui, Sid s'est suicidé en mettant le feu dans son mat, le feu dans son matelas, bien sûr, le feu à son matelas dans la prison de Lisbonne, et ainsi ne sera jamais extradé et jamais condamné pour les 3 meurtres qu'il a commis. Et le seul petit rayon de soleil dans cette affaire, c'est que le 10 novembre 2004, le veuve de Corinne Caillot a obtenu la condamnation de la SNCF pour manquement à ses obligations de sécurité, parce que dans le train où a été tuée Corinne Caillot, il n'y avait que deux contrôleurs, ce qui n'est pas normal, ce qui n'a jamais été normal, excusez-moi. Et donc le veuve de Corinne a obtenu un dédommagement de 223 000 euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire sur Twitter @ElsaETC ou sur murderwinecheese.com. Si vous avez une suggestion, vous pouvez la mettre aussi hein, quand vous serez sur le site ou sur Twitter. Et aussi, si vous pouvez, n'hésitez pas à faire un petit don. Le lien est dans la barre d'inscription. Sur ce, je vous souhaite de ne pas choper la grippe, hein, de garder votre gorge bien emmitouflée sous votre écharpe et bien en sécurité, et de trouver un billet de 10 ou de 20 par terre, puisque c'est Noël, hein, peut-être que le karma nous fera des cadeaux. En tout cas, moi je vous retrouve là pour le prochain épisode, et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Salut !